Merci de nous accueillir chez vous pour une nouvelle émission de Palabre, une émission un peu exceptionnelle aujourd'hui, puisque nous allons vous présenter le numéro 3 de Lettre de Lemurie, une magnifique édition de nouvelles avec une pléthore d'écrivains. Mais nous avons choisi justement parmi tous ces écrivains d'adopter une perspective féminine avec 4 auteurs. Je n'ai pas envie de dire 4 écrivaines, le mot ne me convient pas. 4 femmes, perspective féminine, parce que comme vous le savez, la parole féminine a été souvent muselée, mise sous le boisseau ici à La Réunion, et cette fois nous avons choisi de réparer un peu les choses. 4 femmes au studio pour nous parler de leurs écrits dans cette revue Lettres de Lemurie 3. Monique Mérabé pour sa nouvelle Le Festin de Balthazar. Catherine Pinali pour La Jetée. Marie-Claude Barbin, un titre, une édition, une nouvelle bilingue. Hein, il y a quelqu'un, je ne sais pas dire en créole. Et puis Monique Séverin, La Robe d'Angélica, tout un programme. Je vous signale quand même, avant de donner la parole à nos écrivains, que cet ouvrage magnifique est sous la direction d'Arius et Marie.
Alors, c'est
Batiscaf.
Batiscaf, Marie Batiscaf, en fait, c'est Dodovol, les éditions Dodovol.
Ah oui,
comment dirais-je, les promoteurs de cette édition sont Zoar Avulson. Ah, il va falloir qu'on apprenne quand même à prononcer les noms malgaches. Zoar Avulson,
oui.
Et Sophie Bazin, qui est également Marie Batiscaf.
Voilà. Merci Monique Séverin. Alors justement, Monique Séverin, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Monique Mérabé, même chose, bonjour.
Bonjour.
Marie-Claude Barbin.
Bonjour.
Et Catherine Pinal.
Bonjour.
Bien, alors je le disais, perspective féminine, mais d'abord, qui pourrait m'expliquer, puisque nous en sommes à la 3e édition, ce que c'est que Lettre de Lemurie?
Monique Mérabé.
Oh non, pense que Monique Séverin pourra dire ça mieux.
En fait, moi, je vais tout simplement m'inspirer de la
préface.
De la préface, hein, de Sophie Bazin et Zoar Avulson, qui font partir le projet des marches du Salon du Livre des Comores et de l'Océan Indien, où il avait été question de mettre ensemble des énergies littéraires, des imaginaires, etc., pour faire émerger ce continent littéraire qui serait le continent lémurien. Vous savez bien évidemment que la Lémurie serait ce continent englouti dont il ne resterait que quelques éléments dont les Mascareignes font partie, et donc la Réunion. Donc il y aurait Madagascar, les Comores et les Mascareignes.
Est-ce à dire que ça n'avait pas été fait avant, ce genre de publication lémurienne?
Pas vraiment, non. Pas vraiment.
Sauf qu'il y a eu les œuvres de Jules Herman, justement, voilà, qui s'est beaucoup intéressé à cette Lémurie. Je crois que c'est un peu lui qui a lancé cette idée de continent perdu, etc., dont on retrouve, enfin, lui en tout cas, retrouve des traces à La Réunion, dans les Mascareignes, et puis à Madagascar et aux, voilà, Comores. Voilà, mais voilà, donc il y a eu des livres parlant de Lémurie, c'est sûr.
Voilà, mais l'entreprise, on va dire collective, c'est-à-dire ce désir de faire émerger un continent littéraire et un imaginaire indien-océanique, je pense qu'il c'est bien ce qui fait l'originalité de Lettres de Lémurie. C'est ce désir, en quelque sorte, hein, de mettre en commun des énergies et un imaginaire indien-océanien.
Oui, il y a une identité lémurienne, en fin de compte, ainsi qui se crée.
La question, il y a une telle diversité dans ce recueil de nouvelles, une telle richesse, parce que nous trouvons à la fois des nouvelles, des poèmes, mais nous trouvons également du français, du créole et même du malgache. Alors, la question que je me posais, puisque vous êtes 4 au studio, est-ce que nous allons procéder par auteur, par nouvelle, ou bien est-ce que nous ferons une émission plurielle, diverse, en échangeant? Mais quand même, je commence un peu par toi, Monique Mérabé, c'est la première nouvelle de femme. J'ai oublié de dire qu'il y a également Alexandra Bisson parmi les femmes.
Oui.
Donc Monique Mérabé, tu nous publie une nouvelle, Le festin de Balthazar, tout un programme où on sent déjà, dès le titre, un programme de lecture avec notamment la magie des rois mages. Alors, parle-nous un peu, présente-nous un peu cette nouvelle, puisque je le disais dès le titre, mais aussi dès la phrase liminaire avec le mot épiphanie, nous entrons dans la thématique de cette nouvelle.
Oui, ben, c'est un peu une histoire qui m'a été inspirée par Pave, c'est pas l'histoire, bien sûr, c'est une fiction, naturellement, mais elle m'a été inspirée par tout ce que je vois autour de moi, mes promenades dans mon quartier, je parle de Saint-Jacques, je crois, à un moment, le clochard, enfin SDF qu'on retrouve, et celui-là en particulier, bon, je l'ai bien rencontré, on le rencontrait un peu partout, toujours dans le périmètre, Providence, quartier Saint-Jacques, enfin dans toute cette zone-là, et j'ai voulu faire comme un petit miracle en fait qui arrivait dans cette histoire en faisant que la galette, puisqu'il s'agit d'épiphanie, et donc il y a une histoire de galette et de, comment ça s'appelle, la fève en or, cette histoire de galette, la galette a été finalement donnée au SDF, parce que la personne qui devait recevoir la famille, s'est retrouvée toute seule, voilà, et qu'elle ne pouvait pas manger tout ça toute seule.
Petit Roland de l'Évangile qui nous dit, si vous invitez des gens à votre
c'est
table,
ça, voilà, très inspiré, très inspiré. D'ailleurs, je crois que j'ai dû mettre cette phrase quelque part, quand on a invité des gens et qu'ils ne viennent pas, on ouvre sa table à tous ceux qui viennent.
Voilà. Ce qui frappe en lisant cette nouvelle, c'est à la fois le réalisme teinté de merveilleux et saupoudré d'un humour qui n'appartient qu'à toi. Justement, est-ce que ce sont les ingrédients, selon toi, pour justement réussir une nouvelle? Et puis sans compter la chute, Catherine qui nous le dira, elle qui travaille avec ses élèves sur la nouvelle, comment une nouvelle prend son sens véritablement à travers la chute?
Oui, ben c'est certain que la nouvelle, oui. Alors, la chute, par contre, elle m'a été inspirée par, pas du tout un personnage de SDF, mais par quelqu'un de ma famille, enfin, un monsieur bien tranquille, j'ai offert une galette, on allait manger une galette chez eux, et je trouvais qu'il s'ennuyait un peu. Mais finalement, c'est lui qui est tombé sur la fève. Bon, puis l'histoire est passée comme ça. Et quelque temps après, donc, sa femme me dit, mais tu ne sais pas, c'est que le soir, il a gardé cette galette. Et il a dit, jamais je m'en séparerai, parce que c'est un cadeau à moi. C'est moi qui l'ai... Donc, je me suis aussi, inspirée de ça pour la fin. Maintenant, quand tu dis que la nouvelle, elle est sans doute intéressante, puisqu'elle a été choisie par par l'équipe de Lettres de Lémurie, voilà, maintenant...
Mais moi, j'ai envie de demander aux autres invités, Marie-Claude, Monique et Catherine, si elles ont lu cette nouvelle de Monique Mirabé, Le festin de Balthazar, ce qu'elles en ont pensé, et puis si elles ont peut-être une ou deux questions à te poser. Moi, j'avais envie quand même de faire une remarque sur l'onomastique que j'ai particulièrement... On est vraiment campé, puisqu'on a Melchior, on a Balthazar.
Ah oui.
Mais
Douce.
On a aussi Petit Bazar, Gros René, des choix de noms particulièrement typiques de notre univers.
C'est typique, puisque, comme je disais, mon histoire, elle est vraiment ancrée dans ce Saint-Denis, cette ambiance de... d'un côté, les fêtes... religieuse, de l'autre côté avec la petite demoiselle bien sous tout rapport, etc. Et de l'autre côté, ces boutiques chinoises reconverties en buvettes et qui restaient ouvertes évidemment tout le dimanche et ainsi de suite. Donc, et les noms, Petit Bazar, je vous dirai tout de suite, j'ai pensé à T14 bien sûr. Mais bon, je n'ai pas appelé T14 puisque ça n'a rien à voir. Mais voilà, au départ. Et puis, Et à la fin, donc, on comprend pourquoi ça s'appelle Petit Bazar.
Donc, je laisse la parole aux autres invités pour te parler de ta nouvelle.
Ben oui, moi, en ce qui me concerne, j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de générosité dans ce qu'elle écrivait. La personne seule, et puis il y a aussi le problème de la solitude. Et je me suis retrouvée dans cette réunion longtemps, quoi, avec le Petit Bazar, boutique chinois, tout ça. Et aussi le partage. Parce que ben elle est seule, il y a personne pour manger la galette, et puis il y a justement le monsieur qui est tout seul lui aussi, et qui est abandonné par la société. Donc je trouve que c'est très beau parce que on je veux dire là on parle aussi de générosité, de solidarité, ce qui manque dans notre société d'aujourd'hui.
Avez-vous quelque chose à ajouter? Qu'avez-vous pensé tout simplement de la nouvelle de Monique?
Oui, bon ben moi je vais être l'autre Monique, donc va être très partisane, parce que de toute façon, j'aime ce qu'écrit Monique Mérabé. Hein, on travaille ensemble, c'est peut-être intéressant d'en parler aussi. Je veux dire, on travaille ensemble, nous sommes quelques écrivaines là à travailler ensemble et à proposer nos textes, pour soumettre nos textes, pour voilà. Donc j'ai eu le plaisir de lire la nouvelle de Monique, on va dire en préalable. Donc, et on avait déjà échangé là-dessus. J'aime beaucoup, comme pour Joy, j'ai beaucoup aimé les noms, l'histoire des rois mages, etc. Bon, et également les autres personnages. Mais ce qui m'intéresse, en fait, dans la nouvelle Monique, c'est qu'elle s'intègre au projet, de la revue Lettres de Lémurien, qui dit ceci, enfin, les auteurs disent ceci, enfin, les promoteurs disent ceci. La revue Lettres de Lémurie est ouverte à tout texte provenant d'auteurs de la Lémurie ou à des textes de tous horizons concernant la Lémurie. Le continent étant mythique, la foi de l'auteur fait foi. Voilà. Tant que ça grimpe, c'est un bon chemin. J'aime la logique. Et là, je veux dire, la nouvelle de Monique, qui s'inscrit donc dans l'univers réunionnais, va concourir justement à fabriquer. Et c'est vraiment le type de nouvelle qui va fabriquer ce continent lémurien. De même, bon, tout de suite pour parler de la nouvelle de Marie-Claude Barbin également, qui a fait le choix du créole. Hein, et donc c'est quand même intéressant de voir que les langues de notre Lémurie apparaissent quelque part. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et chez Catherine, je fais le tour comme ça, j'aurais donné mon avis sur mes trois consoeurs. La nouvelle de Catherine, bah pareil, c'est la jetée, donc j'aime aussi parce que c'est un personnage féminin, hein, mais c'est un personnage féminin qui se vit dans un environnement qui est celui du sud de l'île. Donc cet imaginaire qui est en train de se créer, je trouve, avec l'être de Lémurie. J'ai pris plaisir à lire tout ce monde-là. Donc, merci mesdames.
Alors peut-être un dernier mot sur cette nouvelle de Monique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce détonnant mélange qu'elle parvient à opérer entre ce qu'elle appelle l'univers cruel et impitoyable d'en bas, et puis cette hauteur, tout à coup, que le récit prend avec ce festin qui a effectivement quelque chose de merveilleux et qui nous amène quand même ailleurs. Et ça, je trouve que c'est très réussi sous la plume de Monique.
Merci à toutes, hein, pour vos opinions, qui me touchent bien. Mais pour répondre à Catherine, je dirais que, je pense que le monde est cruel, oui, nous le savons tous, et que écrire, pour moi, c'est d'essayer justement de transcender quelque chose quelque part, de mettre un petit peu d'humanité là où elle est écrasée, de mettre ici un petit miracle qui peut se passer, etc. Et pour répondre à Monique Séverin qui parlait de Lémurie, l'esprit Lémurie, moi ce que je voulais dire c'est que oui, c'est vrai, quand on regarde mon texte et qu'on lit après les autres, autres, ben on voit que c'est pas du tout la même veine, ni le même thème, etc. Et c'est ça qui fait la richesse de cette,
c'est la
de,
voilà. diversité. Oui, qui c'est fait, ça,
c'est la diversité.
La
c'est-à-dire ce qu'on recueil. Passe d'un monde, d'un univers à un autre. Voilà.
Absolument. Ouais. Et je le rappelle, c'est une très très belle édition qui peut-être n'est pas encore arrivée dans toutes les bonnes librairies de Lille, mais qui peut constituer un véritable cadeau, hein, à mon sens, quand on cherche quelque chose à ouvrir. Alors, je passe à toi, Marie-Claude Barabin. Comment elle est, puisque ta revue est bilingue, donc j'ai été assez surprise. J'avoue que je ne sais pas lire la partie en créole. Mais c'est toute l'originalité de cette nouvelle, donc n'a point personne, ou bien il y a quelqu'un. Donc, parle-nous de ce choix d'une écriture bilingue, tant il est vrai que cette nouvelle est absolument habitée par l'univers créole, par la créolité, devrais-je dire, puisque nous trouvons le lexique créole, les traditions créoles, la cuisine créole, enfin, l'humour créole, hein, le moukatage créole. Hein.
Oui. Ce recueil, enfin, cette nouvelle fait partie d'un recueil et j'ai rencontré par hasard, le hasard n'existe pas, au Salon Athéna, Zoari, c'est ça comment on dit?
Oui, Zoari.
Bon, alors j'avais mon recueil devant moi et il me dit, je dis, ah, et j'arrive pas à trouver un éditeur. Et puis il me dit, n'a point personne, si tu veux, je te la publie. Je suis restée là, je dis, ah ben oui, et il me donne une adresse. J'écris sur un petit bout de papier et puis j'ai envoyé la nouvelle. Ce que je voulais dire dans cette à travers ces nouvelles, parce que moi j'écris toujours sur les faits de société, sur la réalité. Je ne suis pas une romancière, je ne suis pas une poétesse.
Mais je dirais à nos auditeurs que le thème est tout à fait savoureux. C'est la visite, mais je visite de la maîtresse d'école et c'est vraiment quelque chose de savoureux.
C'est quelque chose qui a existé réellement. Ce couple authentique d'Eo dans le temps longtemps, dont le Joseph, lui, il est agriculteur. Et sa madame, elle garde la maison, elle fait le ménage. Et puis, ils sont contents de recevoir les invités venus dans les bas, venus des bas, remontés dans les hauts. Et puis, avec cette jeune fille, Justine, qui est maîtresse d'école. Parce que la femme à Joseph, elle n'a pas été à l'école, mon Dieu, parce que par manque de moyens financiers et peut-être aussi intellectuels, elle n'est pas allée longtemps à l'école. Mais elle est contente de retrouver sa maîtresse d'école le dimanche. Donc on retrouve la générosité des gens des hauts, je dirais l'authenticité et la manière de préparer le manger avec le bouquet de fleurs dressé sur la table. On fait attention aux invités, on met la nappe à conserver de la naphtaline. On prend aussi les couverts en faux argent qui a été vendu par un représentant voleur. Voilà. Ça existait, comme les draps bénis par le pape, donc c'est à peu près cette époque-là. Les gens se faisaient avoir.
Et puis, on replonge dans cette époque, ce temps béni, où la maîtresse d'école, les enseignants étaient quand même
des
personnes importantes, des institutions dans cet univers-là.
Et puis, Joseph, lui, il est agriculteur, mais en même temps, il a une intelligence pratique, du bon sens. Et donc, il attend sa maîtresse d'école avec impatience, avec sa pile de journaux pour discuter, parce que là, ça se passe dans une cuisine en paille au toit d'un feu de bois. Le manger fait depuis la veille, le zachar, le macaroni, le curry poulet bien doré, et puis il y a Madeleine qui arrive à chaque instant pour savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, et puis, il y a l'entraide aussi. Quand on a besoin d'un petit grain de l'huile, une petite tête d'oignon, un petit cuillère de sucre, on vient demander.
Un peu trop intrusif.
un peu envahissant. Mais je veux dire que la solidarité, elle est là. Et j'ai trouvé que c'était des valeurs qui se perdent. Et je me suis dit, allez, j'ai écrit avec le cœur. Bon, mon créole.
Comme chez Monique, hein, Mirabet, toujours parsemé d'humour. Hein, quand il dit, mais c'est tout de même pas Madame Chirac, quand même. Ou bien la maladresse de la maîtresse de maison qui voit arriver. Ah, mais tu as bien grossi, ma fille, tu as grossi. Mmh. Franchement, c'est savoureux. Une chute, encore une fois, bien travaillée.
Une jeune fille un peu potelée, normalement, si elle est maigre, c'est qu'elle est malade, quoi. Et on disait ça avant. Ouais. Ma fille ou la grossie, ça veut dire ou l'enfant en bonne santé ou l'enfant, quoi. C'est tout ce que j'ai essayé de traduit à ça. Et puis, je trouvais que c'était une nouvelle qui correspondait peut-être plus à moi.
Tout à fait.
Et je me suis dit, allez, bon, passons pour le créole. Il doit y avoir plein d'erreurs graves.
Mais moi, je vais te demander justement de nous lire un tout petit passage en créole. Bon,
non, moi, je voudrais dire, puisque on doit donner son avis aussi.
Oui.
Moi, j'ai beaucoup aimé le créole. Hein. C'est bien écrit.
Si, c'est pour, parce que pour j'ai tellement de remarques désobligeantes sur mon créole.
Ah ouais? Ah non, non, pas du tout. Là, il est vraiment bon. Il est bon, le créole. Hein. Oui. Voilà. Et donc, effectivement, l'histoire, ça nous replonge dans notre vie. Moi, j'ai connu ça. Hein. Bon, tout simplement.
Oui, moi, je rebondis aussi. J'ai trouvé le récit très touchant et puis surtout universel parce que, certes, ça se passe dans la Réunion longtemps, mais moi, je suis la seule métropolitaine, je crois, aujourd'hui.
Mais réunionnaise d'adoption.
Ouais, quand même aussi un petit peu. Mais cette scène, moi, je l'ai vécue aussi dans mon enfance, parce que je viens d'une région rurale, en Dordogne, et c'était tout à fait le même état d'esprit chez ce qu'on peut appeler les petites gens, lorsqu'il s'agissait de recevoir un personnage un petit peu plus important. Tout à coup, ces petites gens se mettaient en 4, en 8 pour réserver le meilleur accueil possible, bien évidemment. Donc, j'ai trouvé ça très touchant, très juste, très vrai, très, très spontané aussi.
En ce cas, moi aussi, m'adonne mon point de vue là-dessus. Et si mi permet à moi, mi lien d'ibout, parce que je trouve gaillard. S'il n'a pas fait d'études à cause de sa famille, t'es pauvre comme job. L'instruction t'es pas autre portée. Mais elle l'a toujours rêvé d'être l'institutrice pour cubes enfants les autres. Bon Dieu, elle n'a pas voulu donner à elle un petit. Dommage. C'est pour ça qu'elle y adore Justine comme la Vierge Marie. Pour Lucille, elle institutrice, c'est signe de richesse et de respect. Mme Berthaud a la chance d'avoir une fille aussi instruite. On m'a arrêté là parce que moi, m'y irai sans aucun problème tout le texte, m'y aime. Et m'y connais pas, Kossala Diaou, Marie-Claude, sur ce texte-là. M'y suppose que s'il y a des histoires de graphie, m'y en profite pour dire un petit mot là-dessus. Midi, nous, ici, La Réunion, nous bataillons encore sur les histoires de graphie. Midi, un de ces quatre matins, nous va finir par définir une manière d'écrire. Moi, on a des choix personnels, mais s'il dit à moi officiellement que c'est d'une autre manière qu'il faut écrire, mais écrire d'une autre manière, moi, ça m'y veut, c'est fait passer, justement, l'esprit, faire passer un imaginaire, justement, à travers le créole, parce que le créole, il transporte une autre affaire que le français. Hein? Enfin, lui transporte pas de la même manière, même si les univers sont là, et moi, elle est d'accord avec Catherine aussi là-dessus.
Et encore une fois, moi, la petite métro, je suis très sensible à la musicalité aussi de la langue. C'est vrai que cette musicalité, on l'entend justement lors d'une lecture comme celle-ci. Je trouve que voilà, c'est tout un monde qui se crée autour des sonorités du créole. Et ça aussi, c'est extrêmement important peut-être de le faire entendre d'une manière à la fois peut-être un petit peu plus littéraire, un peu plus poétique aussi.
Bien sûr. Je me l'ai bien content que la pluie azote. Merci.
Mais puisque tu as le micro, Catherine Pinali, tu vas le garder pour... Ah ben oui, je vais quand même présenter ta nouvelle, La Jetée, qui est un récit à la première personne. Est-ce qu'on ne prend pas le risque, en écrivant son récit à la première personne, que les lecteurs essaient de trouver, pour reprendre les mots de Marguerite Yourcenar, des confidences personnelles dans le texte de l'auteur?
Oui, il y a certainement dans ce récit, effectivement écrit à la première personne, quelque chose, enfin du moins des résonances autobiographiques, mais il y a toujours du vécu dans les récits que l'on écrit, quels qu'ils soient d'ailleurs. C'est vrai que j'ai tendance d'une manière générale à écrire à la première personne, en sachant que parfois ce jeu d'ailleurs est celui d'un homme. Ici, en l'occurrence, c'est celui d'une femme. C'est peut-être le récit... de tout ce que j'ai pu écrire, le plus féministe et le plus engagé aussi, puisqu'on sent bien que d'un côté, dans ce récit qui met en scène deux femmes, il y a une femme qui souffre peut-être d'une existence un peu liberticide et qui rêve peut-être d'une liberté qu'on sent bien qu'elle aura du mal à conquérir. Et puis une autre en face d'elle qui croise ses pas sur cette jetée et qui incarne justement peut-être la femme libre, mais aussi peut-être une liberté qu'elle paye durement.
Oui, mais justement, la réussite de cette nouvelle, c'est que tu revisites quand même presque un cliché, l'infidélité, les stéréotypes d'une société très convenue, voilà, dans laquelle cette héroïne est peut-être malgré elle, et en même temps, tu revisites cela de manière magistrale en arrivant à toucher ton lecteur, et peut-être plus tes lectrices, qui se sentent concernées par la nouvelle. Et là, en plus, on sent la patine du prof parce que tous les codes de la nouvelle se retrouvent là avec une chute, mais encore une fois, extraordinaire. Tu ménages l'attente, tu ménages le suspense. Je dis bravo.
Merci Joyce. Je pense que je sais pas. Oui, c'est quand même un moment vécu. Hein, je l'avoue, puisque quand je vivais encore à Saint-Pierre, il y a quelques années de cela, je me suis retrouvée dans la situation de la narratrice, c'est-à-dire mère de famille, peut-être un petit peu engluée dans mon mariage et un petit peu surtout, comment dire. Sans beaucoup de liberté, parce que j'avais des enfants, parce que la vie était là, et parce que cette vie, elle est toujours un petit peu emprisonnante. Et je me suis retrouvée comme la narratrice à attendre la fin du cours de danse de mes filles, assise sur la jetée de Saint-Pierre, à rêvasser un petit peu. Et obligatoirement, dans ce cas-là, l'esprit vagabonde et mon esprit a rencontré les passants ou les passantes qui pouvaient arpenter cette jetée et a certainement projeté sur ces passants et ces passantes eh bien des fantasmes. Et c'est un petit peu ce que fait aussi cette narratrice en croisant les pas de cette passante sur laquelle elle projette certainement ses propres fantasmes.
Est-ce que c'est une passante réunionnaise ?
Oui. Ah oui, la passante est réunionnaise.
Bien sûr.
Ça, c'est sûr. Mmh. Et elle a toute la enfin, pour moi, c'était important. La flamboyance des femmes réunionnaises. Pour moi, c'était important de lui donner ça. C'est elle qui porte une robe telle un oriflamme.
Mais justement, on a l'impression que la narratrice elle-même, elle est dans l'admiration de la passante. Et on a vraiment l'impression qu'elle se sent à l'étroit, corsetée, figée dans une vie qu'elle n'a peut-être pas choisie, mais qui est la vie convenue des bourgeoises. Hein, cours de danse pour les enfants, voilà, une apparence. L'homme, quand il lui dit « mais tu ne vas pas te donner un spectacle », enfin, c'est un peu ça. Enfin, tiens-toi, quoi. Il faut se tenir, et il faut se tenir dans des codes qui sont finalement très étroits.
Oui, tout à fait. Puis de toute façon, je pense que la vie, c'est un petit peu ça. D'un côté, il y a tout ce qui nous emprisonne. Et puis de l'autre côté, il y a toutes nos aspirations, certainement, qui nous amènent ailleurs. Alors la problématique, elle est là. Est-ce qu'on a le courage, justement, de briser les chaînes ou pas ?
Alors, on va déborder de notre demi-heure parce qu'on n'a pas tout vu et voilà. Monique, enfin, les autres, la nouvelle, votre opinion, donc quand même, votre appréciation de la nouvelle de Catherine Pinali, la jetée. Avez-vous une remarque à faire avant de passer la parole à Monique Séverin qui va nous proposer, qui va nous présenter sa petite Angelica.
La nouvelle de Catherine, ben moi je la trouve comme ces autres textes que j'ai lus, quelque chose de très bien construit. Et là, c'est une ambiance, justement, elle traduit bien ce que on a déjà, ce dont on a déjà parlé, hein, cette sensation qu'on peut avoir d'emprisonnement, qui est vrai pour cette femme, pour ça, mais qui est vrai, je pense, pour tout, pour toutes les femmes en réalité. Voilà, on est toujours un petit peu coincé dans notre vie et on essaye de rêver d'ailleurs. Ailleurs, l'herbe est toujours plus grasse. Voilà.
Oui, je trouve que ce livre est écrit en, tout en délicatesse. On voit bien la femme rangée, bourgeoise, qui n'est pas, peut-être, pas très heureuse, quoi. Et elle s'imagine que l'autre, avec sa robe chatoyante, elle s'imagine que l'autre, ben, elle s'imagine un autre univers, quoi. Un univers, peut-être, où elle serait plus heureuse, mais on n'en sait rien de l'univers de la passante.
Alors, Monique, je ne sais pas ton opinion sur la nouvelle de Catherine que tu vas nous donner, mais on va entrer avec toi dans une nouvelle, que je dirais presque une nouvelle engagée, parce que j'ai l'impression que tes personnages sont tout à fait allégoriques d'un type de fonctionnement sociétal. Ici, en l'occurrence, une malgache Angélica, une jeune malgache, un Vasa, mais avec, tout au long de ton récit, des petits coups de griffe, des petits, voilà, sur une espèce, sur un fonctionnement qui n'est pas très, 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 très sain.
Voilà, non mais c'est clair, tu parles de nouvelles engagées, oui bien sûr, je crois que je n'arrête pas d'écrire de façon engagée, de toute manière. Ça changera peut-être un jour, je vais peut-être faire dans l'esthétique pure, mais vraiment, la question de la condition de la femme me touche énormément. Et comme on est en Lémurie, et que Madagascar fait partie de la Lémurie, et que nous avons avec Madagascar un lien quand même assez étroit, de par l'histoire, hein, de par nos origines, etc., Et que ce lien se joue souvent de façon malsaine, puisque les jeunes malgaches sont objets de désir de la part.
Tu dénonces le commerce des charmes des jeunes malgaches. Et tu dis une phrase que je trouve très belle : tous étaient là pour se faire de l'exotique. Mais comme c'est bien dit. Et comme ça résume tout.
Et bien sûr, puisque, bon, justement, alors, peut-être en lien avec ce que disait Catherine tout à l'heure, je veux dire, le personnage de Catherine regarde l'exotique, si on peut dire ça, la femme exotique.
C'est l'envers.
Voilà, et c'est une sorte, c'est un contrepoint en quelque sorte. Hein, et dans le recueil de nouvelles qui va être publié, enfin, qui est republié, Némésis et autres humeurs noires, donc un de mes recueils, mon premier recueil qui va sortir à nouveau, là, chez l'Harmattan. Je pose systématiquement toutes ces questions-là, parce que ça me travaille, ça me travaille. Hein. Et c'est Catherine Pinali, je crois, qui me disait qu'il s'agissait d'une séance d'habillage, déshabillage avec la robe d'Angélica. Finalement, elle se débarrasse de ces frusques dont elle ne veut pas, dont on l'habille, voilà. Et j'en profite aussi tranquillement pour épingler quelques attitudes machistes de Réunionnais aussi. Hein. Là, il s'agit d'un Vasa, mais les Réunionnais ne se gênent pas non plus pour aller chercher des petites malgaches, les ramener ici, etc. Enfin bon, je trouve que c'est un commerce qui est indigne. Bon, j'ai essayé de l'esthétiser dans cette nouvelle. Mais je pense que j'en reparlerai encore souvent de ceci et d'autres choses. Hein, je veux dire,
est-ce une forme, encore une fois, d'esclavage moderne, de servitude que tu dénonces là ? Parce que toi-même, tu dis que ces jeunes étaient avec l'assentiment même des adultes, des autres, des proies faciles. Voilà. Et puis, j'aime beaucoup dans cette nouvelle cette espèces de géographie à trois branches entre Réunion, Madagascar et la France, hein, puisque voilà.
C'est ça. Ouais, c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs dans le projet de Dodo Vol, hein, c'est le fait que l'on puisse mettre les choses en perspective. Hein, c'est-à-dire que là, bon, ben, à la limite, moi, c'est mon regard sur Madagascar, ce n'est aussi que le mien. Bon, évidemment, je puise dans une caisse de résonance qui est assez importante ici à La Réunion, puisque je pense que beaucoup de gens vont reconnaître des traits, en quelque sorte. Et puis, c'est vrai que cette emprise que l'on peut avoir sur les femmes et les femmes pauvres, ça, c'est redoutable. Moi, alors là, c'est vrai que c'est une dénonciation. ça, je le dis. Et cette jeune femme est intelligente et elle regarde et elle est à la fois...
D'une lucidité, oui, mais oui. Tragique.
Presque. Tragique, tragique. Parce que finalement, c'est vrai qu'à la fin de la nouvelle, bon, on ne sait pas ce qu'elle va faire de sa vie. Elle décide de se défaire de cette robe qu'on lui a imposée. Mais est-ce qu'elle va pouvoir aller jusqu'au bout de sa logique? Puisque lorsque la faim, la misère vous harcèle, ben vous faites comment? Et ça, c'est terrible. Moi, j'espère, en tout cas, l'écrivain est peut-être là pour ça. Aussi, hein, c'est pour faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. En tout cas, je le souhaite.
Oui, alors l'écrivain, justement, pose cette question que j'ai retenue et qui est une question éthique que je pose à vous, chers amis auditeurs, à tous. Hein, dans une sphère où tout est permis, même l'inconcevable, peut-on accepter justement cet inconcevable? Jusqu'où peut-on être dans une espèce de non-dit, d'acceptation, de relativisme, pour ne pas dénoncer? Peut-on accepter l'inconcevable?
Oui, moi qui ai travaillé avec les victimes de violences, notamment sexuelles, je trouve que la société a tendance à fermer les yeux sur ce qui se passe ici, à Mada. Ces réunionnais qui vont là-bas pour trouver du plaisir auprès des enfants, surtout. Et c'est dramatique. Bon, les associations en dénoncent, mais le système de Madagascar fait que c'est comme ça. Mais n'empêche, c'est très bien d'avoir écrit là-dessus et de dénoncer de manière poétique les choses tragiques que vivent ces jeunes.
Alors, l'émission touche à sa fin, malheureusement.
Mais je crois qu'on est devant, on a bien parlé, que c'est ça qui est bien sûr qui est intéressant, c'est cette implication dans les violences et les méfaits de notre société vis-à-vis de celles qu'on considère comme exotiques. Voilà. Et d'ailleurs, rapidement, mais dans les autres nouvelles, je remarquais que dans les nouvelles malgaches, écrites par des malgaches, eh bien, il y a souvent ce thème qui revient. Le thème de la prostitution et des femmes, des milieux où on vend des enfants, etc.
Oui, puis c'est surtout la violence faite aux femmes. C'est pas obligatoirement effectivement une violence physique. On parle beaucoup de la violence physique à l'heure actuelle, et c'est vrai qu'elle est absolument bien sûr inacceptable. Mais il y a aussi cette violence morale qui mine beaucoup les femmes. Et c'est vrai que l'héroïne de Monique, en se déshabillant, en laissant tomber sa défroque, cette défroque qu'on lui a imposée, on espère qu'elle va se retrouver elle-même. On l'espère.
Ouais, je l'espère aussi.
En tout cas, merci à vous toutes, Monique Séverin, Monique Mérabet, Marie-Claude Barbin, Catherine Pinali, d'avoir répondu à notre invitation.